Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Crozat.
Bonjour à toutes et à tous. Donc cet après-midi, nous allons donner la parole à des étudiants et étudiantes de l'UTC pour présenter les travaux réalisés dans le cadre du cours WE1. Donc à l'UTC, ça fait deux fois que je le dis. Donc WE1 est un cours qui aborde d'une façon générale les technologies du web. Alors on fait un petit peu de théorie, un peu de pratique, un peu d'HTML, mise en ligne de sites, compréhension du fonctionnement d'Internet. On fait un peu de méthodo. Et puis on aborde surtout sur la fin des questions culturelles, usage, éthique, économie. Par exemple aujourd'hui on a parlé de vie privée, de données personnelles. Alors les étudiantes et étudiants ont travaillé ce semestre en groupe sur un sujet sur un sujet différent pour chaque groupe. Ils ont mis en ligne sur un site web des fiches de lecture, un article, des interviews et donc ils vont venir nous présenter aujourd'hui, la semaine prochaine et puis dans un mois une synthèse de leurs travaux ici sur Graphite. Alors le premier groupe aujourd'hui va nous parler basse technicisation web et convivialité. Donc ce groupe est composé de Jonathan Legrand. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Ensuite on aura Elisa Robot. Bonjour Elisa.
Bonjour.
Puis Lucie Thompson. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Et enfin Zoé Hilde. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Et donc, eh bien, pour démarrer, Jonathan va nous présenter le concept de low-tech et d'une façon générale, comment s'articulent les questions low-tech et numérique. À toi, Jonathan.
Ça marche. Alors, donc, je vais commencer par une définition un petit peu du concept. Je me suis basé tout simplement sur le site du Low-Tech Lab, qui est une association qui est dédiée à la diffusion, à la mise en œuvre de ce courant. Alors, c'est un terme qui désigne à la fois des objets, des systèmes, des savoir-faire, qui intègre la technologie selon trois principes. Le premier, c'est le principe d'utilité. Une low-tech, c'est quelque chose qui répond à des besoins essentiels à l'individu ou au collectif. La question de l'usage, elle est vraiment fondamentale. On veut vraiment s'éloigner des gadgets quand on parle de low-tech. Le deuxième principe qu'on doit intégrer à la technologie low-tech, c'est l'accessibilité. En fait, une low-tech, ça doit être appropriable par le plus grand nombre. Ça doit pouvoir être fabriqué et ou réparer localement. Ces principes de fonctionnement doivent pouvoir être appréhendés simplement et le coût adapté à une large part de la population. Le troisième point, c'est la durabilité. Dans toutes les étapes de son cycle de vie, depuis la fabrication, recyclage, en passant par l'usage, un objet low-tech doit chercher à optimiser son impact écologique et sociétal, quitte à faire des compromis sur son efficacité. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une démarche technophobe, anti-technique, c'est-à-dire qui est absolument systématiquement contre toute forme de progrès technologique. C'est plutôt quelque chose qui s'inscrit en opposition au solutionnisme technologique qui préconise de résoudre l'ensemble des problèmes d'épuisement des ressources par la croissance verte, les véhicules électriques, l'intelligence artificielle, etc. Parce que c'est une idéologie qui se heurte dans la pratique à la finitude des ressources disponibles et de l'énergie nécessaire pour les extraire et les recycler. Je vous propose sur le sujet donc, de ce socialisme technologique un extrait d'une intervention à la BPI d'un ingénieur français spécialiste des low-tech qui s'appelle Philippe Biwix.
Ces promesses de high-tech, elles sont basées sur une consommation accrue de ressources, souvent des ressources d'ailleurs un peu plus rares, un peu plus difficiles à les trouver, à des endroits qui sont du coup des fois un peu moins géopolitiquement stables, je ne sais pas quoi, du platine en Russie, des terres rares en Chine, que sais-je. Et plus on fait des high-tech, plus en fait on s'éloigne de l'économie circulaire. Plus c'est difficile de reboucler le cycle des ressources et de dire je refais une portière avec une portière, je refais une boîte de conserve avec une boîte de conserve. On n'arrive pas à faire ça. Parce qu'en fait, c'est des produits beaucoup plus mélangés, beaucoup plus bourrés d'électronique, etc. D'où l'idée de dire, bah tiens, finalement, si je voulais faire un monde réellement durable, alors durable, j'entends pas durable sur 20 ans, durable sur le long terme, quelque part, eh ben, il faut avoir un usage un peu différent de nos ressources et avoir une conception de nos objets qui soit peut-être différente et pas systématiquement se jeter sur le high-tech. Alors,
d'entendre Philippe Biwix, qui est assez médiatisé, c'est vraiment lui qui défend aujourd'hui le concept des low-tech. Alors vous l'avez, vous en rappelez sans doute, mais notre sujet concerne les low-tech dans le numérique. Et justement, Philippe Biwix, sur le numérique, il a un avis. Il nous explique que faire de l'informatique, même simple, nécessite un complexe technologique très avancé, des matériaux rares, beaucoup d'énergie. L'informatique ne peut pas être low-tech. Cette citation est extraite de l'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable, publiée en 2014. On peut se poser la question, en fait, sachant ce qu'on sait maintenant de tout ce que le numérique implique en termes d'impact écologique, est-ce qu'il faut chercher à s'en débarrasser? Est-ce que c'est une sorte de fardeau high-tech non convivial? Le fait est que le numérique rend des services en ce qui concerne le partage des connaissances, la recherche, la communication, etc. Il faudrait trouver une façon de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est l'expression qu'utilise Bigous dans une de ses conférences. Alors, dans le cadre de cette UV, on doit réaliser des interviews. Et on a interviewé une dame qui est ingénieure spécialiste dans la question de réparabilité à l'ADEME, et à qui on a parlé de low-tech, puisque ça fait partie de son domaine de compétences. Elle nous a expliqué que quand on parle de low-tech, il faut trouver un référentiel, c'est important. Elle prend l'exemple d'une des voitures, en fait une Dacia, je pense que vous connaissez la marque, c'est une voiture, donc on peut se dire qu'intrinsèquement c'est un moteur, c'est transmission, c'est un tas de systèmes, c'est pas intrinsèquement low-tech. Mais si on prend le référentiel d'une Tesla, une Dacia, bah, c'est relativement low-tech. Bon, si on la compare à un vélo, c'est plus low-tech du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de la marge en prenant le référentiel numérique d'aujourd'hui pour penser à un numérique qui est plus low-tech que celui qu'on a actuellement, puisqu'on voit bien qu'on ne peut pas s'en passer. Et donc, pour faire évoluer le numérique vers un numérique plus low-tech, on peut s'appuyer sur les trois piliers des concepts du low-tech. On se souvient, il y avait le pilier plus soutenable, la soutenabilité. Aujourd'hui, on sait que le numérique, c'est 3,7% des émissions de gaz à effet de serre, selon le rapport pour une sobriété numérique du Shift Project, qui a été publié en 2017, si mes souvenirs sont bons. C'est également une contribution à l'épuisement des terres rares qui sont présentes dans la plupart des terminaux, ordinateurs, smartphones, et qui sont, comme nous l'a expliqué plus tôt Phil Biwix, impossibles à recycler pratiquement. On veut aussi un numérique plus accessible, plus intelligible et appropriable par les utilisateurs. Ça va passer notamment parce que Lucie va aborder dans la troisième partie, le logiciel libre. Et enfin, on veut un numérique plus utile. Aujourd'hui, il y a une culture du gadget, de l'innovation pour l'innovation dans le milieu du numérique. Il reste de la marge pour se poser des questions sur la pertinence de certaines innovations. Est-ce qu'on a besoin de plus d'objets connectés, d'une définition maximale dans les vidéos pour tous les usages, du passage à la 5G pour les particuliers, etc.
Merci Jonathan pour cette présentation. Alors j'ai une question à te proposer, elle n'est pas forcément facile, mais si tu as quelques éléments. Donc tu nous as parlé d'une informatique plus utile, soutenable, accessible, tu as donné quelques exemples. Est-ce que par hasard tu aurais des idées pour intégrer ces valeurs ou ces principes aux enseignements de l'UTC? Est-ce qu'il y a des endroits où tu penses que ça pourrait trouver sa place, soit dans des enseignements que tu as déjà eus ou que tu pourrais imaginer?
Alors, je pense qu'il y a effectivement de la marge, parce que c'est vrai qu'on nous parle peu, à moins qu'on cherche à faire des UV ou des techs spécifiques, de l'impact carbone du numérique. Après, le point peut-être accessibilité. Alors, moi, je ne peux pas forcément le dire, parce que je n'ai pas forcément pris ces UV, mais comment concevoir des systèmes informatiques qui sont peut-être plus faciles à approprier pour les personnes qui ne sont pas forcément du domaine? Je pense que c'est une question intéressante à creuser. Je ne sais pas trop si ça se fait. En termes d'utilité, là, je pense que ça va. Je pense qu'on a quand même une éducation à l'UTC qui pousse à donner un sens à l'innovation. Bon, c'est un peu une tarte à la crème, c'est un peu le slogan de l'UTC, mais on essaye quand même de faire des dispositifs qui ont un sens.
Ok, tu as des exemples en tête d'endroits où effectivement il y avait des choses comme ça qui ont été mobilisées dans des UV que tu as suivies? Je te prends un peu de cours, hein, si tu as rien qui te vient, c'est pas grave. Mais
je peux y réfléchir rapidement, mais...
Ok, bah, je te propose qu'on enchaîne, et puis si à un moment tu as des pistes qui te reviennent, on pourra les replacer.
Ça marche.
Ça marche. Donc on va continuer pour la seconde partie, donc avec Elisa, sur les limites et les obstacles des low-tech. C'est parti, c'est à toi.
Donc moi je vais vous parler des limites et des obstacles des low-tech, car oui, les low-tech ont leur part de limites et d'obstacles. Et donc, quelles sont ces limites et ces obstacles? Donc pour répondre à cette question, je vais me baser sur le rapport de l'ADEME qui a été publié en 2022. Donc tout d'abord, nous rencontrons des problèmes du côté des entreprises qui font qu'elles ne veulent pas forcément se lancer dans le low-tech. Donc en effet, tout d'abord, une entreprise devrait réfléchir sur la façon de mettre en place les low-tech et trouver des solutions simples pour respecter l'idéologie low-tech requiert plus de recherche et de développement comparé au high-tech. Ensuite, il y aurait une augmentation du coût de l'entreprise, donc notamment avec le stockage des pièces, comme le low-tech est réparable et modulable, car oui, le stockage des pièces engendre un certain coût. Donc, je peux prendre par exemple l'exemple d'un ordinateur portable low-tech. Donc, pour la fabrication d'un ordinateur portable low-tech, comme il est réparable et modulable, on devrait stocker toutes ses pièces telles que sa carte graphique ou alors sa RAM. Au contraire, on n'a pas ce problème-là avec les appareils high-tech, car elles ont leurs pièces soudées. De plus, le remplacement des machines high-tech par des machines low-tech engendrerait aussi un coût supplémentaire à l'entreprise. Aussi, les appareils low-tech effectuent des fonctions simples. Or, une entreprise a besoin d'appareils capables d'effectuer plusieurs fonctions. Et donc, cela reviendrait à multiplier les appareils pour pouvoir retrouver toutes les fonctions exercées des machines de l'entreprise. Et donc, on augmente encore le coût de l'entreprise. Puis, l'entreprise perdrait du temps, car construire une machine low-tech prend généralement plus de temps que de construire une machine high-tech. Enfin, l'entreprise devrait respecter l'environnement, donc elle aurait des contraintes de production. Donc, par exemple, elle devrait utiliser d'autres matériaux plus rares pour la fabrication d'appareils low-tech, car les énergies fossiles sont proscrites. Et donc, d'ailleurs, avec les matériaux plus rares, on revient au coût qui est plus important, car généralement, les matériaux plus rares sont beaucoup plus chers. Donc, pour illustrer mes propos, j'ai interviewé Olivier Robot, ingénieur informaticien travaillant dans un centre national du ministère des Armées, afin de vous présenter un cas concret des limites qu'une entreprise peut rencontrer. Et donc, la question est la suivante. Si votre centre voudrait passer au low-tech, quels seraient les obstacles qu'il rencontrerait? Et voici sa réponse.
Pour ma part, j'y vois deux freins à l'adoption du low-tech. L'aspect humain et l'aspect technologique. Depuis plus de 20 ans, on a eu de cesse d'améliorer le quotidien de nos utilisateurs en intégrant toujours plus de services innovants pour leur confort en adoptant des solutions high-tech. Le low-tech délaisse le confort au profit de la fonction. Pour ces personnes, il représente donc la privation de leurs acquis. Côté technologique, le low-tech, c'est la promesse de la robustesse et de la maintenabilité, donc l'antidote à l'obsolescence programmée. Sauf que dans notre domaine, il se résume à des produits open source. Rendre compatibles et fiables des systèmes utilisant des technologies différentes augmente le risque de ne plus répondre aux contrats de disponibilité que nous avons. La conduite d'un tel changement demande d'énormes ressources que nous ne possédons pas. Il est préférable d'intégrer le low-tech dès la conception d'un produit ou d'un service. Ainsi, cela préempte les barrières psychologiques ou d'acceptabilité et supprime l'incompatibilité technologique tout en apportant de meilleures garanties sur l'aspect réglementaire et la sécurité de nos utilisateurs. Soyons intelligents et inventifs et recherchons des solutions de manière progressive. Si un objet low-tech ne répond pas à l'attendu, concentrons-nous sur ses composants. Et si ce n'est toujours pas le cas, regardons du côté des matériaux. Le low-tech, c'est comme Rome. Ça ne va pas se faire en un jour, mais tous les chemins peuvent y amener.
Enfin, nous rencontrons aussi des problèmes du côté des utilisateurs qui n'aimeraient pas forcément passer au low-tech, car cela changerait leurs habitudes. Donc, ça changerait leurs habitudes, notamment avec la perte de confort pour certains usages. Donc, pour reprendre mon exemple des ordinateurs portables low-tech, comme ils sont réparables et modulables, ils seraient beaucoup plus épais et lourds qu'un ordinateur portable high-tech. Et donc, ils seraient moins transportables. Enfin, on pourrait aussi dire qu'il y aurait une perte de temps avec certaines machines. Donc, on peut prendre l'exemple de Biwix avec la voiture. Plus une voiture est légère, et moins elle consomme, mais du coup, moins elle ira vite.
Merci pour cette présentation. Alors, je te propose tout de suite une question donc de Elliot qui fait le lien entre les limites que tu as présentées et le domaine du numérique. Alors, il nous demande, est-ce que tu penses que le low-tech n'est pas un frein en général dans le numérique, et est-ce qu'on peut le mettre en place, notamment à l'échelle de l'ensemble du réseau, donc du réseau web, internet, etc. Est-ce que l'effet de réseau, c'est pas aussi un souci?
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un frein. Mais après, je viens de présenter les limites. Donc, bien sûr, j'ai pas présenté forcément des solutions. Il y a forcément des solutions. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup recherché. Et donc, après, c'était quoi la suite de la question ?
En gros, c'était est-ce que la dimension en réseau, je pense que ça rejoint un petit peu des éléments qu'on a eu à un moment dans l'interview que tu as passé, c'est-à-dire que la dépendance entre tous les éléments techniques, voilà, entre les serveurs, entre les clients, l'installation du réseau, les câbles, etc., voilà, ça peut paraître plus compliqué de mettre en place une démarche low-tech à l'échelle d'un réseau entier.
Oui, oui, c'est vrai, parce que du coup, bah, y a beaucoup de câbles. Et donc, oui, pour le réseau low-tech, il faudrait essayer de diminuer, donc tout dans la philosophie, donc diminuer par exemple toute cette consommation. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec tout ce que nous avons comme appareil, ça requiert beaucoup de changements. Et donc, comme je l'avais dit, remplacement des machines high-tech par les machines low-tech, c'est assez compliqué car il y a beaucoup de coûts, mais c'est aussi le temps de tout mettre en place, de construire, la recherche, le développement. Je ne sais pas si on pourrait mettre ça en place. Je ne suis pas une ingénieure, je ne suis pas assez renseignée sur ce sujet, même si j'ai beaucoup travaillé dessus. Peut-être qu'il y a des moyens, mais actuellement, je n'en connais pas vraiment.
Ok, bah en même temps, ça va faire un peu peut-être la transition avec la suite, puisque Lucie, tu as prévu de nous parler donc de l'association entre low-tech et open source, et bien voilà, c'est peut-être un petit élément de solution pour répondre à la question qu'on vient de se poser.
Oui, alors moi, je vais parler de comment est-ce que l'association entre low-tech et open source peut-elle permettre le développement de ces deux principes. Alors pour cette partie, je vais m'appuyer sur un article écrit par Lionel Morel, low-tech, logiciel libre et open source, quelle synergie à développer ? Un logiciel open source est un logiciel dont le code source est publiquement accessible. N'importe qui peut le voir, le modifier et le distribuer à sa guise. L'open source est à l'origine un modèle de développement logiciel prônant l'ouverture et la collaboration via la libre distribution du code source. Aujourd'hui, ce concept s'est étendu à tous les domaines et à toutes les industries. Là où la propriété intellectuelle est souvent utilisée pour garantir l'exclusivité et imposer des restrictions, les licences libres favorisent des approches inclusives qui étendent l'utilisation. Par conséquent, ces dernières années, nous avons constaté que la logique du libre s'applique à de nombreuses choses différentes. Alors, même si aujourd'hui, les low-tech et l'open source ne sont pas systématiquement reliés, les deux concepts pourraient tout de même chacun tirer un avantage à s'allier. Cependant, il reste quand même des difficultés à surmonter pour relier ces deux concepts. Les logiciels libres et l'open source viennent d'une communauté de hackers dont le but était de ne pas être dépendant de grandes firmes. Cependant, cela a été perdu au fil des années et aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises se servent de logiciels libres. D'une certaine manière, le logiciel libre qui mettait à l'origine en avant les enjeux d'émancipation liés à l'informatique s'est peu à peu fondu dans la technostructure qui fait aujourd'hui peser un poids insoutenable sur l'environnement. Par exemple, ici, on va écouter un court extrait de la conférence de J et Pig de Framasoft, une association qui est convaincue qu'un monde numérique émancipateur est possible. Ici, il va parler de comment YouTube participe à l'effondrement, Google se servant des logiciels libres pour faire tourner leurs serveurs. Les logiciels libres participent donc aussi à l'effondrement. C'est un court extrait de la conférence récupérée de Framatube et postée par Framaconf.
Typiquement, les algos de recommandation de YouTube. Vous allez me dire quelle relation avec l'effondrement. Bah, les algos de recommandation de YouTube étant YouTube appartenant à Google, Google appartenant à Alphabet, YouTube, à un moment donné, doit satisfaire les actionnaires de Google. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils vendent de la publicité, il faut qu'ils fassent rentrer du cash, tout simplement. Et pour faire rentrer ce cash, ben il faut mettre de la pub. Pour mettre de la pub, il faut que les gens la regardent. Pour que les gens la regardent, il faut qu'ils aient des contenus qui fassent qu'ils vont regarder cette vidéo. Et c'est pour ça, entre autres, donc moi j'avais déjà discuté avec un Guillaume Chalot, qui est un ancien développeur et un ancien, développeur chez YouTube, qui a travaillé sur l'algorithme de recommandation, qui aujourd'hui dénonce son propre travail, entre guillemets, sur lequel l'algo de YouTube va nécessairement vous envoyer vers des vidéos qui vont être celles qui vont vous faire rester.
Alors, Alors, il serait actuellement nécessaire que les logiciels libres s'associent avec les low-tech afin que ceux-ci gardent du sens à l'heure où la crise climatique devient incontournable. Pour qu'ils se renouent avec leur philosophie originelle, qu'ils diminuent leur dépendance aux grandes entreprises et qu'ils prennent mieux en compte les enjeux écologiques. De plus, le web se centralise de plus en plus à ce jour, ce qui complique la diffusion du low-tech. On a toujours plus de data centers et toujours plus de pollution. Or, si on appliquait la logique des low-tech, des logiciels libres au matériel, cela permettrait de rendre la fabrication d'objets low-tech beaucoup plus facile. En effet, le fait de partager comment fabriquer des objets low-tech, comment les utiliser, les bénéfices, les limites, pour que ce soit accessible à tous et modifiable par tous, c'est le meilleur moyen de faire connaître le principe des low-tech et que ceux-ci se développent. Chacun pourrait partager ses connaissances, ce qui décuplerait les façons de trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Alors que l'obsolescence programmée fait des ravages du côté de la production industrielle, les low-tech peuvent s'appuyer sur l'open source pour garantir un droit à la réparation et une souveraineté retrouvée sur les objets. Alors on peut quand même déceler des complications puisque cette association n'est pas forcément chose aisée, car il faut pouvoir observer un progrès afin de s'assurer que cette association soit un succès. Non seulement il faut que l'idée se diffuse pour que cela ait un véritable impact sur l'environnement, mais il faut que cela s'appuie aussi sur un modèle économique.
Merci beaucoup de cette présentation. Donc, tu nous as donné effectivement quelques pistes pour associer low-tech et numérique à travers donc, la question de l'open source. Une petite question complémentaire, voir si on peut peut-être trouver des idées complémentaires. Est-ce que tu as d'autres pistes, peut-être que celles que tu as citées, pour en quelque sorte faire renouer enfin, tu as dit à un moment qu'il y avait dans l'esprit d'origine du libre et de l'open source certaines idées qui étaient plutôt compatibles avec les low-tech, de simplicité, de réduction fonctionnelle, etc. Est-ce que tu as des pistes pour qu'on retrouve un petit peu ça, peut-être qu'on diminue notre dépendance aux grandes entreprises, ce qui pourrait peut-être favoriser un petit peu des choses à la fois low-tech et open source?
Alors oui, c'est sûr que la centralisation du web et le fait qu'il y ait toujours plus de grandes entreprises qui s'appuient sur les logiciels libres, et donc nous, on va plus avoir tendance à aller vers des grandes entreprises comme Google, alors qu'il existe des alternatives qui sont des logiciels libres et qui n'utilisent pas de... Enfin, qui n'ont pas de lien particulier avec les grandes entreprises. Et ça, peut-être que de l'utiliser plus, d'en faire plus la diffusion, d'en parler plus, eh ben, ça permettrait que les logiciels libres soient de plus en plus utilisés et pas que seulement avec les grandes entreprises comme Google, Facebook, etc.
Ok, bah merci beaucoup de cette proposition et qui fait encore, c'est extrêmement bien organisé votre émission, hein, qui fait également le lien avec la dernière partie de Zoé qui va nous parler donc des low-tech dans la vie de tous les jours.
Donc, existant depuis les années 50, les low-tech ne sont pas encore très très connus du grand public. De nombreuses instances sont alors développées avec comme mission de démarginaliser cet état d'esprit et de le démocratiser. On peut prendre l'exemple du Low-Tech Lab, dont Jonathan avait parlé précédemment, qui est un programme de recherche et de documentation collaborative sur les low-technologies qui vise à les promouvoir et les diffuser dans le monde. Cette association fait appel à de nombreux acteurs, comme par exemple des particuliers ou des Fab Labs pour échafauder des solutions, des entreprises voulant innover différemment et des ONG qui soulèvent des problèmes présents sur le terrain. Car en effet, son but, c'est également de venir en aide à des communautés en trouvant des solutions low-tech et en favorisant leur implémentation dans la vie quotidienne, même de tous les jours. Leur site ressource de nombreuses inventions low-tech permettant de trouver des alternatives à nos appareils quotidiens. Elles proposent même des tutos pour les faire chez soi. On peut citer également l'ADEME, dont plusieurs de nos sources sont tirées, qui est l'Agence de la transition écologique, donc un établissement public ayant pour but de bâtir une société plus sobre et solidaire. C'est-à-dire qu'elle agit sur tout le territoire français pour implanter des procédés écologiques, réduire notre consommation d'énergie et ainsi impacter nos émissions de gaz à effet de serre en les diminuant. Elle soutient l'innovation et la recherche et a récemment publié un rapport intitulé « Démarche low-tech » pour promouvoir ce concept et mieux le comprendre. Cependant, on peut se demander si, malgré la dévotion de ces organisations pour démocratiser la philosophie low-tech, celle-ci est vraiment connue dans la société. Pour répondre à cette question, j'ai réalisé un micro-trottoir et interviewé plusieurs étudiants de l'UTC, donc l'Université de technologie de Compiègne, pour savoir si le concept de low-tech leur était familier.
Tu es dans quelle branche ?
Alors moi, je suis en TC2.
Je suis en TC4.
En TC2.
En IM.
En GP.
GI1.
Est-ce que tu connais les low-tech ?
Non, pas du tout.
Non, je connais pas.
Non, pas du tout.
Du coup, j'ai seulement entendu le nom, mais je ne saurais pas définir exactement ce que c'est.
Oui, un petit peu.
Oui.
Où as-tu découvert les low-tech ?
J'ai découvert les low-tech dans une TSH où il y avait un exposé sur les low-tech et genre comment ils avaient été mis en place et tout ça.
Dans les médias.
En cours de TSH en W01. Peux-tu me définir le concept de low-tech ?
Bah, je peux essayer, hein. Du coup, la low-tech, c'est quoi ? C'est utiliser des technologies qui utilisent très peu d'énergie ou en tout cas des énergies totalement renouvelables.
Bah, pour moi, c'est utiliser la technologie d'une manière très simple pour répondre à des problématiques. Par exemple, au lieu de mettre des grandes machines pour enlever les mauvaises herbes des champs, etc., bah, c'est avoir un outil très basique mais qui permet de faire la même chose sans utiliser trop de techniques.
Est-ce que tu aurais un exemple de low-tech ?
Oui, mon cousin a fait une machine à laver vélo.
Un four solaire. Donc, grâce à ce micro-trottoir, j'ai remarqué que la moitié des personnes interrogées ne connaissaient pas les low-tech. Une partie, environ un quart, connaissait le terme mais ne savait pas concrètement comment le définir ou alors le définissait mal. Cependant, j'étais quand même surprise de voir qu'autant de personnes, donc le quart restant, connaissaient le principe et savaient plutôt bien le définir. De plus, grâce à ce micro-trottoir, j'ai remarqué que les personnes étant familières avec le terme de low-tech l'ont connu grâce aux médias, mais surtout grâce à leurs cours à l'université. On peut ainsi comprendre que l'éducation scolaire agit également pour mettre en avant la philosophie low-tech. Cela permettra, dans le futur, aux étudiants de cette école d'ingénieurs d'avoir en tête cet autre moyen de conception d'un produit, produire mieux, mais avec moins. De nombreuses personnes ne sachant réellement comment on pourrait utiliser les low technologies dans notre quotidien, je vais ici vous en donner quelques exemples tirés du low-tech lab, pour que si jamais vous voulez refaire chez vous, bah, ce soit possible et que vous ayez des idées. Les produits tels que le dentifrice, le produit vaisselle, le déodorant, la lessive fait maison sont en fait des produits fabriqués en low-tech. Ils sont moins nocifs pour l'environnement et coûtent moins cher. Les fours solaires ou les frigos du désert fonctionnent comme des vrais fours et réfrigérateurs et consomment beaucoup moins d'énergie. Savez-vous par exemple qu'en Normandie, un boulanger cuit son pain à l'aide d'un four solaire ? Incroyable mais vrai. Une petite éolienne à moteur peut permettre de recharger des petits appareils comme des téléphones portables pour utilisation quotidienne. Le biocarburant fabriqué à l'aide d'huile de friture ou encore le biocharbon réalisé à partir de déchets agricoles sont encore des exemples de low-tech. On peut cependant se demander comment le low-tech ou le numérique en général peut-il être low-tech ? Donc ça répond un peu aux questions posées précédemment. Le numérique, de par sa conception, ne sera jamais entièrement low-tech. Cependant, dans l'utilisation, il pourrait l'être. Par exemple, le Low-Tech Lab alimente son site web à l'aide d'énergie provenant de panneaux solaires et affiche des images et vidéos ayant une qualité un peu réduite, ce qui consomme quand même beaucoup moins d'énergie. La chaleur émise par le fonctionnement des serveurs informatiques peut être récupérée pour chauffer des serres ou des bâtiments également. Cependant, les low-tech ne sont pas qu'un ensemble de produits, c'est aussi une philosophie. Cette philosophie s'associe au principe de sobriété numérique. La sobriété numérique consisterait à enlever le numérique de tous les endroits où il n'est pas nécessaire d'un point de vue vital, sociétal ou écologique. Par exemple, au lieu d'acheter un store électrique qui peut se commander avec un téléphone, privilégier un store manuel, un petit peu moins pratique mais plus respectueux de l'environnement en termes de conception et d'utilisation de matières premières. C'est aussi avoir une consommation plus responsable et réfléchie en se posant les bonnes questions avant tout achat. Ainsi, le low-tech, encore peu répandu dans notre société, tend à se développer et à se démocratiser dans les usages et les produits.
Merci beaucoup de cette dernière partie. Alors j'enchaîne tout de suite avec une question de Chloé. Chloé demande si, je pense que ça fait écho aussi à ce que nous a présenté Jonathan au début sur la réappropriabilité, l'accessibilité. Et donc la question de Chloé, pardon, c'est les low-tech doivent-elles passer par l'éducation au code ? Donc là, en particulier dans le domaine du numérique, l'éducation à la programmation. Je pense qu'on pourrait généraliser dans les exemples que tu as donnés avec l'éducation à d'autres technologies si on parlait pas que dans le numérique, mais donc dans le numérique, est-ce qu'à ton avis il faut que ça passe par la partie code? Et Chloé précise que donc j'imagine que dans sa tête ça serait plutôt un souci parce qu'elle dit tout le monde ne peut pas apprendre forcément à développer l'ensemble des compétences, alors dit-elle, pour être un hacker etc. Donc est-ce qu'à ton avis il faut faut donner plus de culture technique, en particulier en informatique, pour mieux rentrer dans la question des low-tech?
Bah, je pense que c'est nécessaire pour vraiment avoir un pour essayer de développer le low-tech. Il faut commencer par là. Après, est-ce que ça ne faudrait pas déjà changer ce qui est un peu mis en place? Donc, par exemple, les sites web, etc., déjà mis en place par les grandes entreprises qui prennent plein de couleurs, des images hyper performantes, qui sont hyper, hyper réceptifs, etc. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir ça tout le temps? Je ne pense pas. Donc, il y a ça aussi à changer. Il faut changer la base, donc les personnes qui vont créer les sites, etc., mais changer ce qui existe déjà pour les améliorer et favoriser. Donc, moi, je dirais oui, mais pas que.
Ok, bah merci beaucoup à toi. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut ajouter quelque chose, Jonathan? Tu veux revenir sur la question de début, peut-être?
Oui, c'est exactement ça. Vas-y. Alors, bon, j'ai pas tous les détails, j'ai essayé de chercher rapidement pendant que les autres passaient, mais je me souvenais qu'il y avait un sujet de PR. Bon, c'est un petit peu du jargon UTC1, mais c'est un projet de groupe qui est porté par des étudiants. Et ça concernait la dialyse. Parce qu'en fait la dialyse le fait de filtrer le sang quand il y a des reins qui sont dysfonctionnels, c'est un processus qui est très 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 polluant, on sait pas forcément, et ils cherchaient des voies, alors je sais pas quelle exactement était leur approche, mais des voies pour rendre la dialyse plus verte entre guillemets. Je pense que c'est un projet intéressant et qui encore une fois donne du sens à l'innovation. Bon, c'est un peu ridicule, mais voilà.
Non, écoute, grâce à ça, je pense que tu vas avoir quelques crédits en plus pour avoir fait la promotion de l'UTC comme ça à deux reprises. Merci beaucoup de cet exemple. Ça montre effectivement que même dans des projets plutôt high-tech, eh bien, en tout cas, on peut se poser des questions de durabilité ou effectivement de ce qu'on appelle de l'autechnicisation. Par ailleurs, est-ce que l'une d'entre vous veut ajouter un dernier mot? Eh ben, merci beaucoup à tous les quatre. Donc, merci Jonathan, Elisa, Lucie et Zoé. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à vous.
Et puis, je vais faire ça.
Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC.